Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
Les journalistes m'intéressent.
You are fake news. Hello.
Il est 9h41 sur France Inter et c'est l'instant M qui redémarre.
Vous coupez ?
Non,
vous
êtes
en direct, allez-y.
Si la semaine dernière n'avait pas surgi la menace d'une guerre très réelle entre les États-Unis et l'Iran, on aurait cru à un jeu vidéo ou bien à une série à très gros budget façon Game of Thrones. Les deux journalistes que je reçois ce matin vivent au Moyen-Orient. Ils nous racontent les destins, les haines et les amitiés des trois princes du Golfe ou comment Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Qatar tentent à eux trois de redessiner un nouvel ordre mondial à coups de pétrodollars, de surenchères militaires et d'offensives. Offensive médiatique. Combinaison du hard et du soft power. Trois têtes couronnées qui ne sont pas nécessairement des alliés. Deux d'entre elles ont décidé de combattre la troisième. Bienvenue dans une partie géostratégique dopée à l'ego.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et je suis très heureuse de recevoir ce matin Miyuki Drose Aramaki. Bonjour, soyez
bonjour.
La bienvenue. Vous portez
merci.
Un nom japonais absolument magnifique,
merci
cher
beaucoup.
Miyuki. Et Sylvain Le Petit, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes basés tous les deux au Liban, vous travaillez, vous couvrez toute la zone moyenne orientale. Votre film dont on va parler ce matin s'appelle Golf, la guerre des princes. Quand je vous disais que c'était une sorte de Game of Thrones moyenne orientale, est diffusé sur Arte mardi prochain. Alors, on est un petit peu en avance. Hein. En général, on aime bien vous parler de ce qui va être diffusé à la télévision le jour même, au maximum la veille ou l'avant-veille. Là, on est un petit peu en avance. Il se trouve que notre émission s'achève demain et que vous étiez de passage en France. Donc, on en a profité. Je voudrais vous faire écouter un homme que l'on appelle MBZ et qui s'adresse ainsi à ses troupes militaires.
Un pays ne s'évalue pas à sa taille. Qu'il y ait 1, 10 ou 100 millions d'habitants, ce qui distingue un pays, c'est la valeur de ses hommes.
Ce matin, nous allons parler de MBS, de MBZ et de Tamin Al-Thani. Vous allez vous y retrouver, ne vous inquiétez pas. On va commencer par Mohamed Ben Zayed, dit MBZ, prince régnant des Émirats Arabes Unis. Sans doute la vraie découverte de ce film, parce que très peu médiatisé. Est-ce qu'il intéresse peu les journalistes occidentaux, les journalistes européens ?
Je dirais que c'est surtout un homme qui aime rester caché, qui aime l'ombre. Mm-hmm. Donc, il y a très peu de journalistes européens qui sont basés dans la zone et qui pourraient s'intéresser à lui et nous le faire découvrir. Mais oui. En plus, même pour les médias locaux, MBZ est une personne qui accorde très très peu d'interviews.
D'accord.
Et qui aime ne pas être dans le feu des projecteurs.
Sylvain Le Petit, il est devenu le levier clé de cette région.
Oui, c'est ça. C'est un homme qui aime rester dans l'ombre et tirer les ficelles et utiliser par exemple MBS pour influencer le monde arabe, le monde le Moyen-Orient, et voilà, que ce soit en Égypte où il a financé l'arrivée au pouvoir du général Sissi, que ce soit aujourd'hui actuellement en Libye, on n'a pas eu le temps d'en parler dans le documentaire, mais par exemple le général Haftar qui est en train de déstabiliser toute la région est aussi financé par les Arabes Unis. Et voilà, MBZ, c'est ce genre de personnage qui aime rester dans l'ombre.
Alors,
mais qui,
il faut
en fait,
que vous nous le racontiez, parce qu'il a par exemple une fascination pour l'équipement militaire. Ça fait de son pays l'un des pays les plus armés au monde. Au monde.
Par habitant.
Il par faut habitant. Bien,
voilà. Oui. C'est un tout petit pays avec très peu d'habitants.
Oui.
Et en effet, MBZ est lui-même donc formé dans l'équivalent de Saint-Cyr britannique, donc Sandhurst.
Ouais.
C'est lui-même un pilote d'hélicoptère et il est fasciné par les armes. Et il a créé le plus grand salon militaire de la région, donc a lieu tous les deux ans, et qui réunit à la fois les vendeurs d'armes occidentaux, russes, chinois, etc. Et tous les acheteurs, dont beaucoup de dictateurs de la région.
Voilà. Alors, il est une sorte de grand frère, il est un ami très proche, une sorte de grand frère, une sorte de mentor pour MBS, prince régnant de l'Arabie Saoudite, Sylvain Le Petit. Et ça, c'est une donnée clé si on veut comprendre cette guerre des trônes du Moyen-Orient.
Oui, en fait, MBS arrive au pouvoir en Arabie Saoudite et il a besoin d'un allié. Et en fait, en MBZ, il voit une sorte de modèle.
Oui.
En fait, MBS, il veut en terminer avec le poids des religieux dans son pays. Oui. Il veut le moderniser. Et en fait, son modèle, c'est les Émirats Arabes Unis, ce pays qui en fait a réussi à mettre un peu la religion de côté, s'ouvrir sur l'Occident, attirer des capitaux, attirer des touristes et développer un modèle économique qui ressemble un peu à un paradis fiscal.
Oui.
Mais voilà, il veut développer l'Arabie Saoudite sur ce modèle et du coup, il va chercher en MBZ un modèle. Et MBZ, évidemment, est extrêmement heureux d'avoir un allié aussi puissant que l'Arabie Saoudite, qui est quand même le pays le plus riche de la région, le plus peuplé et qui est la grande puissance régionale.
Alors on va l'écouter, ce fameux MBS.
Si dans les 5 prochaines années, notre économie se développe, alors la prochaine renaissance viendra du Moyen-Orient. C'est la guerre des Saoudiens et mon combat personnel. Je veux que de mon vivant, le Moyen-Orient domine le monde. Et je suis sûr que cela va arriver à 100%.
Miyuki Droza Aramaki, évidemment, au moment où le journaliste Jamal Khashoggi a été assassiné dans le consulat de son propre pays à Istanbul, on a beaucoup médiatisé, on a beaucoup parlé, on a fait le portrait de ce jeune prince impétueux, extrêmement autoritaire. Est-ce que vous pouvez nous le recamper brièvement ?
Alors MBS, c'est le fils préféré de son père. Donc son père est arrivé au pouvoir. C'est l'un des derniers d'une génération. Et donc MBS a profité en fait de ce moment clé pour se positionner, pour écarter tous ses cousins. Parce qu'il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, la famille royale est très élargie et donc il y a énormément de jeunes princes qui auraient pu prétendre au trône. Et donc MBS écarte tout le monde. C'est un jeune qui a fait ses études en Arabie Saoudite, ce qui est assez rare, mais qui parle anglais et qui va savoir aussi courtiser l'Occident. Donc avant l'assassinat de Jamal Khashoggi, il avait très bonne presse en Occident, aux États-Unis, en Europe. Enfin voilà, il sait s'habiller à l'occidental, il sait parler aux femmes, les regarder dans les yeux, leur serrer la main, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des Saoudiens. Et donc, il va énormément plaire aux critiques, aux journalistes, aux ambassadeurs qui vont voir en lui l'homme qui va réformer l'Arabie Saoudite et qui va la moderniser.
Alors passons à la troisième tête couronnée, Sylvain Lepetit.
Et qui au début, en fait, l'Occident ne voit pas du tout la face sombre et obscure du personnage, qui est d'une violence extrême. C'est pour arriver au pouvoir, pour écarter ses cousins, il va quand même enfermer l'élite de l'Arabie Saoudite dans un palace. On n'a pas le temps de le raconter dans le documentaire parce que c'est de la politique interne saoudienne. Mais il va enfermer les gens les plus puissants de son royaume et les forcer à abdiquer leur pouvoir et une partie de leur fortune personnelle.
Alors on va passer donc à la troisième tête couronnée, c'est Tamim Al-Thani, c'est donc le prince régnant du Qatar. Il faut que vous nous plantiez le Qatar face aux deux frères ennemis qui réellement le haïssent, lui et son pays.
Bah le Qatar, c'est le plus petit pays de la région.
Voilà.
En fait, il n'y a que 300 000 Qataris dans le pays. Après, il y a des étrangers qui viennent travailler et développer le pays parce que les Qataris ont besoin de main-d'œuvre. Mais c'est un tout petit pays. Par contre, c'est le plus riche par habitant.
Oui.
Parce qu'ils sont assis sur un gisement gazier qui est extrêmement important. Et voilà, pour 300 000 personnes, ce qui fait un PIB par habitant, qui est parmi les plus élevés de la planète.
Alors ces trois princes, c'est l'une des données les plus importantes du film, sont arrivés au pouvoir après les printemps arabes. Et ils ont tous les trois un rapport extrêmement différent à ce qui s'est produit dans la région, Sylvain Lepetit.
Alors ils arrivent après le début du printemps arabe, mais en fait ils sont déjà dans les coulisses du pouvoir.
Ouais.
Donc ils l'observent. Et en effet, chacun va se positionner différemment. Pour MBS et MBZ, pour eux, c'est le cauchemar absolu. Parce que ils se disent, cette vague de protestation, elle peut arriver dans nos pays. Et on peut être renversé et on peut perdre le pouvoir alors qu'on est presque en train de l'obtenir. Donc eux, ils vont faire le pari, au contraire, des militaires. C'est-à-dire que dans toute la région, ils vont financer le retour des militaires à chaque fois, des régimes autoritaires. Parce que eux-mêmes sont dans cette philosophie de régime dur, de concentration maximale du pouvoir. La famille du Qatar, elle va faire un choix complètement différent. C'est tout simplement que le pays est tellement petit, tellement riche, qu'ils savent qu'à l'intérieur du pays, ils ont peu de chances d'être renversés. Et donc, ils vont plutôt profiter du printemps arabe pour surfer sur la vague, financer les frères musulmans, dont ils sont assez proches en termes d'idéologie, et comme ça, pouvoir influencer et avoir des relais Qatari
et
dans
Qatar,
tout le Moyen-Orient.
Et le Qatar dispose d'un relais extrêmement puissant qui est un relais médiatique et qui s'appelle Al Jazeera. On vous raconte sa création.
Al Jazeera est une télévision d'État créée en 1996 par l'ancien émir dans son projet de libéralisation de la société arabe. Il s'agissait par exemple de donner la parole aux critiques de l'autoritarisme dans la région. Tout le monde s'exprimait sur Al Jazeera. Vous pouviez être un extrémiste chiite ou un extrémiste sunnite et être invité en plateau.
Al Jazeera, la télévision qatari, c'est l'épine dans le pied des deux ennemis MBS et MBZ. C'est l'épine dans le pied pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.
Oui, parce que Al Jazeera finalement n'a pas été précurseur des printemps arabes, mais a énormément favorisé en fait tous ces mouvements, la propagation. Parce que du coup, sur cette chaîne qui était la plus regardée du monde arabe, étaient diffusés les discours d'extrémistes ou de la population qui demandait le renforcement de dictateurs, mais enfin toute la vague de printemps arabe a été énormément diffusée sur Al Jazeera. Et du coup, et pour ceux qui s'opposent à tous ces mouvements de renversement du régime en place, donc les monarchies conservatrices que sont les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, ils voudraient mettre fin à cette chaîne de télévision qui finalement diffuse des idées qui vont à l'encontre de leurs intérêts.
Et par ailleurs, cette chaîne de télévision a une filiale qui s'appelle Bein et qui détient les droits sportifs les plus prestigieux de la planète. Donc quand on aime le sport, on regarde Bein, ce qui rend fou de rage les élites saoudiennes et des Émirats Arabes Unis. Sylvain Le Petit, il y a une entreprise de déstabilisation à travers une opération géante de piratage comme on en voit rarement sur la planète, vous la racontez dans le film.
Voici Bein Sport 3, notre chaîne. 22 minutes, 32 secondes de match. Avec à peu près 6 secondes de retard, BeOutQ récupère l'antenne, colle son logo sur le nôtre et rediffuse comme si le contenu lui appartenait. La NBA, la finale du Super Bowl, tous les sports imaginables sont piratés.
Je rappelle que le Qatar a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde de foot. Que ça, c'est insupportable pour l'Arabie Saoudite et pour les Émirats Arabes Unis. Et on se venge en piratant Bein, Sylvain Le Petit.
Oui, c'est ça. En fait, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar se sont aussi engagés dans une compétition d'image. Et le sport, c'est le principal vecteur d'image à l'étranger. Donc le Qatar a été le précurseur et sans doute le plus malin. Et en plus, avec l'argent dont il dispose, il a réussi à obtenir la Coupe du Monde et à créer cette chaîne Bein Sport qu'on connaît en France, mais qui est surtout hyper importante dans tout le Moyen-Orient et qui dispose de tous les droits sportifs dans le Moyen-Orient. Ça veut dire que les Saoudiens et les Émiriens sont obligés de regarder une chaîne qatari s'ils veulent regarder le foot et la précédente Coupe du Monde. Et ça, MBS et MBZ ne le supportaient pas. Et ils ont, particulièrement MBS et des proches de MBS, ont organisé en fait ce qu'on pourrait appeler le vol du siècle. C'est-à-dire qu'ils ont organisé une télé saoudienne qui pirate Bein Sport en direct.
Et on a des preuves que cette opération est dirigée par l'Arabie Saoudite.
Alors, tout le monde sans doute, il y a un faisceau
de preuves
que les dirigeants de Bein Sport nous expliquent. C'est-à-dire que le signal de BeOutQ, déjà rien que le fait qu'il s'appelle BeOutQ qui veut dire dehors le Qatar, en fait, déjà est un signe que ça vient
que c'est politique.
C'est politique. Et le signal part d'Arabsat, qui est un satellite saoudien détenu par l'État saoudien. Et il suffirait que cette entreprise Arabsat débranche.
Ouais, bien sûr, débranche le signal.
Et ce serait terminé.
Et c'est terminé.
Mais c'est pas terminé, ça dure depuis des années. Et même la FIFA, même l'UEFA, même personne ne peut rien faire pour empêcher MBS et ses proches.
Alors, MBS et MBZ sont donc alliés. Ils mènent une guerre larvée, mais quand même, et une pression sans relâche contre le Qatar. Et là, il y a une mèche qui va s'allumer et qui va tout faire exploser, qui s'appelle Donald Trump. On l'écoute s'exprimer, dire ce qu'il pense de MBZ.
C'est un homme extraordinaire, très respecté. Il aime son pays, je peux vous l'assurer. Et je pense qu'il aime les États-Unis, c'est le plus important.
MBZ, la tête couronnée des Émirats Arabes Unis, Miyukid Rozaramaki, a très bien compris que Donald Trump allait arriver au pouvoir à Washington avec une très faible connaissance des enjeux de la région. Il en a profité. Et vous décrivez dans le film toute l'opération de lobbying et tous les moyens qui ont été mis pour influencer Donald Trump et son administration avec succès.
MBZ a donc beaucoup d'argent et donc cet argent il l'a investi dans des think tanks, dans des lobbies aux États-Unis, à Washington et du coup il a pu s'infiltrer peu à peu et finalement monopoliser la pensée de toute l'équipe de campagne de Donald Trump qui n'avait pas vraiment pris position sur le Moyen-Orient et du coup ils ont pu comme si c'était voilà tabula rasa et ils sont arrivés avec leurs idées qu'ils ont donc présentées à Donald Trump, c'est-à-dire voilà présenter le Qatar comme le mauvais élève de la région, présenter l'Iran comme un problème absolu. Alors là, il n'y avait pas trop de difficultés, étant donné que Donald Trump, déjà spontanément, était anti-Iran. Et finalement, c'est ainsi qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Washington, une diplomatie à Washington et Riyad et Abu Dhabi, donc les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, qui ont une politique moyen-orientale quasi, qui va vraiment dans le même sens.
Et puis ils ont eu un homme dans l'entourage du président, son gendre Sylvain le Petit.
Oui, ça MBZ et MBS et les lobbies américains l'ont tout de suite repéré, c'est Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump.
Et quel personnage incroyable.
Oui, 30 ans, il arrive et il est nommé responsable de la diplomatie au Moyen-Orient avec des pouvoirs astronomiques et un carnet de route qui est tout simplement de faire la paix au Moyen-Orient. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est plutôt de mettre à feu et à sang le Moyen-Orient. On l'a déjà vu parce que une de ses premières décisions a été de faire de Jérusalem la capitale d'Israël, ce qui a provoqué les manifestations à Gaza. Mais et ça va continuer. Donc
En arrière-plan de Jared Kushner, il y a MBZ et MBZ et MBS.
Exactement. Ouais.
Et on en revient à la même ignorance de Jared Kushner comme du reste de l'équipe de Trump. Enfin, on a un de nos intervenants, Dexter Filkins, qui nous explique cette scène au moment où Jared Kushner reçoit le portfolio donc de gérer le Moyen-Orient. Donc, il aurait pris une carte du monde, il l'aurait étalée sur sa table et il aurait regardé les pays en disant « Alors voilà, qui sont nos amis, qui sont nos ennemis ?»
Et pendant ce temps-là, il y a aussi une guerre en arrière-plan, qui est la guerre au Yémen, Sylvain le Petit, qui devient finalement une espèce de bourbier, une espèce de Vietnam pour l'Arabie saoudite. Elle est extrêmement importante.
Oui, alors ça c'est la première décision en fait de MBS quand il arrive au pouvoir. D'abord, il n'est pas prince héritier, il est d'abord ministre de la Défense quand il arrive au pouvoir.
Et le plus jeune ministre de la Défense au monde, dites-vous, 29 ans.
29 ans, et première décision, engager son pays dans la guerre au Yémen, en croyant que ça va être une guerre éclair, rapide, pour en finir avec une petite milice pro-iranienne qui vient de prendre le pouvoir dans la capitale. Et il engage ses forces armées, avec toujours son meilleur allié MBZ et son armée suréquipée, qui en plus va pour la première fois pouvoir démontrer son efficacité militaire dans une intervention extérieure. Et finalement, on connaît 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, la situation.
Le résultat absolument effroyable.
Voilà, des milliers de morts, des
famines, choléra. C'est absolument atroce. Une dernière question à tous les deux. Pourquoi avoir choisi le jeu vidéo pour mettre en scène cette guerre des trônes dans les pays du Golfe?
Parce que les jeux vidéo sont très importants dans le Golfe. C'est une zone du monde où il fait très chaud pendant 3, 4, 5 mois dans l'année. Et donc, la jeunesse n'a pas grand-chose à faire. Ils vivent dans des appartements ou des centres commerciaux climatisés. Et ils sont tous complètement accros aux jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose qui est très présent dans cette région du monde. Et on sait que les familles princières aussi jouent. Donc, c'est pas quelque chose juste
MBS,
du peuple.
Vous dites vous-même d'MBS qu'il est féru de jeux vidéo.
Oui, son jeu vidéo préféré, c'est Call of Duty.
D'accord.
Donc, vidéo de combat. Et même Dexter Filkins, qui est un de nos intervenants, nous raconte qu'il a l'habitude, par exemple, de jouer avec le roi de Jordanie, il a l'habitude de jouer avec d'autres princes. Dans le film, on va filmer dans une gaming room au Qatar, et dans la gaming room, on rencontre des princes qui sont des cousins de Tamim Altani. Ils jouent tous aux jeux vidéo, ils sont dingues de ça, et ils voient un peu le monde finalement à travers ce prisme-là qu'on peut contrôler à travers une manette, qu'on peut avoir un droit de vie et de mort sur finalement le Moyen-Orient.
Merci beaucoup à tous les deux. Golf, la guerre des princes est diffusée mardi prochain sur Arte.